Déjà, je pense que c'est une manière.
Après, c'est déjà beau geste de dire vous avez eu le droit aussi, vous avez ravi de dire ce qu'ils ont déjà fait.
Non. Parce que avoir le cœur endurci, avoir le cœur endurci, ça ne veut pas dire être un abruti. Abruti, c'est l'intelligence. Là, c'est le cœur. Mais si on regarde, moi, je passe ma vie à parler en parabole. Non, mais au caté, en sermon, on n'arrête pas de raconter des histoires. Si vous voulez faire, si vous lisez un livre d'astrophysique de vulgarisation, il va vous raconter une histoire avec des briques, des boules. Oui, mais parce que c'est aussi une autre mentalité, c'est aussi une autre culture, donc c'est des images qui nous parlent moins.
Vous commencez souvent au salon par une technique.
Pas toujours, mais. Non, mais après, voilà, c'est aussi une autre époque, une autre culture. Donc déjà, on n'a pas tous les référentiels, peut-être que. Imaginons qu'on mette par écrit des choses là que l'on dit actuellement qui parlent de Macron, qui parlent, je sais pas moi, de clés USB, et puis on fait lire ça dans 2000 ans. Si vous avez plus le référentiel, mais concret, nous il y a des choses, en un demi-mot, gilet jaune, tac, on va s'exprimer. Là, quand le Christ parlait du sel, peut-être que c'est parce que le sel, c'était quand même un élément fondamental pour la conservation des aliments, etc. Donc, peut-être qu'il y avait des milliers d'histoires de sel, des chansons sur le sel, des blagues sur le sel, des proverbes sur le sel, et donc tout de suite, bam, ça a tilté tout de suite. Là, c'est vrai qu'on a, donc il y a déjà 2000 ans d'écart, une autre civilisation, et en plus, là, on a que le script. C'est-à-dire, c'est pas le film, quoi.
Oui.
C'est pas le direct.
Oui.
Donc, on a les notes.
On n'a pas les détails. Oui.
Et on n'a pas, autour de l'évangile, toute la prédication que Saint-Pierre pouvait faire avec Saint-Marc, avec les autres disciples. C'est-à-dire, quand le dimanche, il lisait ce passage, ensuite il commentait, puis il se retrouvait sans doute le dimanche après-midi, puis ils en parlaient, etc. Donc, là, on a vraiment l'ossature aussi. Donc, ça nous rend aussi la chose plus difficile.
Est-ce que aussi par rapport à leur métier des apôtres, parce qu'ils n'étaient que juste des pêcheurs, en fait, ils n'avaient pas fait des études poussées, mais enfin, c'est pas, ils n'étaient pas des super littéraires, des philosophes.
Oui, mais non, mais disons, normalement, la parabole, déjà, elle s'adresse plutôt à la parabole, ça reste plutôt à des gens simples. Après, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes pêcheur sur le lac de Tibériade, que vous êtes quasiment neuneux, quoi. Donc, non, mais ça va, parce qu'on a souvent cette idée, mais si vous êtes patron d'une petite entreprise de pêche, ça veut dire que vous parlez grec, parce qu'il faut commercer, il faut vendre votre poisson. Ça veut dire que, voilà, il faut quand même calculer votre coût, etc. Et puis, vous êtes juif, donc vous avez quand même une connaissance des lettres sacrées du judaïsme, qui, à mon avis, est bien supérieure à la connaissance que les chrétiens peuvent avoir de l'évangile. Donc, on le voit bien avec Jésus, hein, quand il arrive dans la synagogue de Nazareth, sur les lieux de laquelle nous étions il y a quelques semaines, c'est pas le rabbin, c'est pas l'archevêque, ça. Pourtant, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse un commentaire. Parce que un homme qui vient à la synagogue, normalement, est capable de faire un commentaire. Donc, il y a cette connaissance-là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait des rabbins qui pouvait exercer des métiers manuels, certains métiers manuels. Et donc, parce qu'on voit quand même que Saint Jean, l'évangéliste, il est pêcheur, puisqu'il est appelé avec Pierre, André et Jacques sur les bords du lac du Tibériade. N'empêche qu'il a aussi ses entrées dans le palais du grand prêtre. Donc, s'il a ses entrées dans le palais du grand prêtre, le soir du jeudi saint, c'est qu'il est allé à Jérusalem, c'est qu'il a fréquenté la caste sacerdotale. Donc on peut imaginer que Saint Jean n'est pas juste un pêcheur comme ça du lac de Tibériade. Donc bref, il faut se méfier de l'image qu'on peut avoir de des apôtres venus de la pêche. Alors c'est sûr, ce sont des pêcheurs. Donc, ils exercent un métier physique, etc. Mais voilà, c'est pas forcément, ça ne dit pas forcément grand-chose sur leur intelligence, en tout cas de la foi, et de la foi d'Israël.
Donc ils leur parlaient un langage
d'appui, finalement. Oui, j'ose espérer, vu que c'est la sagesse incarnée.
Je pense que c'est la compréhension, on va plus dire.
Oui, oui. Mais après, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qu'on a dit sur le fait que là, on n'a pas forcément, nous, les références culturelles qu'eux avaient tout de suite, donc en parlant du sel, etc. On n'a pas toutes les explications que le Christ pouvait donner et que les apôtres et les évangélistes ont pu avoir, parce que c'est mis par écrit, mais synthétisé, vraiment résumé d'un enseignement oral qui a duré des décennies. Enfin, Saint-Pierre, il a prêché pendant des décennies, donc et le Christ a parlé pendant 3 ans, donc c'est vraiment très très synthétique. Et puis, c'est aussi ça a aussi un but, c'est-à-dire parler en parabole, donc c'est à la fois s'adresser aux gens simples en leur parlant de choses simples qu'ils connaissent, les champs, la pêche, ça, mais c'est aussi les mettre en situation de désirer. C'est-à-dire, l'avantage de la parabole, c'est que ça laisse libre l'auditeur. Si tu veux en savoir plus, eh bien, une fois que le Christ a quitté sa barque sur le lac de Tibériade, ou la plage, ou la place, tu vas à la maison de Jésus et tu demandes, maître, qu'avez-vous voulu dire tout à l'heure ? Ça les oblige à aller, à creuser, ça les oblige aussi à se position, c'est-à-dire il faut aussi une certaine audace, il faut aussi une certaine soif, il faut aussi un certain désir pour aller demander ce que signifie la parabole. Alors c'est sûr que si le Christ faisait un enseignement un peu clé en main, comme un dit l'évangéliste, on prend, on emmagasine et puis on dit très bien. Alors que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin au début là, sur la transfiguration, la loi nouvelle, c'est pas d'abord les phrases de l'évangile. La loi nouvelle, c'est d'abord Jésus lui-même, qui est la loi. Parce que c'est en voyant vivre Jésus, en étant en contact de Jésus, que on découvre comment plaire à Dieu. Donc, si Jésus avait donné un enseignement comme ça, très lisse, impeccable, etc., bah, Loïc, c'est aussi que les gens disent c'est bien, voilà, on sait quoi faire, il nous a donné le mode d'emploi pour aller au ciel. Ah, il était bien gentil, ce Jésus, et maintenant nous on retourne chez nous. Alors que le fait de parler en parabole, oblige à aller à Jésus, oblige à devenir disciple de Jésus. Ce qui n'est pas forcément le cas, si c'est un enseignement plus intellectuel, plus construit et peut-être plus digeste d'emblée. Et on le voit bien avec les apôtres et puis avec d'autres disciples. Là, les apôtres, ils comprennent pas. Mais de retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question.
Donc
ils y reviennent. Et pareil pour la parabole du semeur. Mais qu'as-tu voulu dire sur cette parabole du semeur? Quand le Christ parle de c'est pas ce qui rentre dans l'homme et ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur, mais les pharisiens ont été choqués par cette parole, explique-nous cette parole. Donc le Christ parle aussi en parabole pour qu'ils aillent plus loin dans ce contact personnel avec Jésus, qui ne se contente pas de les enseigner une fois, mais qui revient, et ainsi, je dirais, au-delà de l'enseignement, le trésor, c'est le lien qui se noue avec Jésus. On le voit bien avec les apôtres. Alors, ils n'ont pas compris la moitié de ce que Jésus leur a dit. Mais ce qui est le plus important, c'est ce lien qui s'est créé avec le Christ. Et on le voit bien avec Saint-Pierre à la synagogue de Capharnaüm. Il n'a pas compris ce que voulait dire le discours du pain de vie. Mais maître, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a ce lien qui s'est créé avec le Christ au-delà de la compréhension qu'il peut avoir des choses innocentes. Parce que de toute façon, ils ne comprendront vraiment que dans la lumière de Pâques et ultimement que dans la lumière du ciel, comme nous. Mais ouais, en fait, il y a un vrai intérêt à parler en parabole. Et un peu comme, toute proportion gardée, quand je commence une histoire ou un sermon par une histoire ou par une image, à la fois, c'est pour capter l'attention, parce que ça fait référence à des réalités que les paroissiens connaissent, et en même temps, c'est aussi pour aller plus loin. C'est aussi pour dire, ben voilà, on part d'une image, mais qui va donner un enseignement. Alors que si on commençait directement par l'enseignement, ben, ça marcherait sans doute moins bien. Donc, c'est pour ça, je trouve que le moyen de la parabole est un moyen en fait qu'on utilise beaucoup.
Il fonctionne encore aujourd'hui, puisqu'on en parle.
Oui, mais c'est vrai qu'il faut bien reconnaître, voilà, notre. Un peu notre indigence, faut bien reconnaître qu'on n'est pas des Galiléens de l'an 30 et que forcément il y a un certain nombre de référents qui nous échappent. Et il y a des phrases de l'évangile, il faut reconnaître que c'est pas exactement ce qu'elle veut dire. Quand le Christ dit là où sont les cadavres se réunissent les vautours, je pense qu'il y a beaucoup d'exégètes qui se sont cassés les dents sur ce point. Hein, mais... Les vos pères ont mangé des raisins verts et dans des fils on en était agacés.
Oui, c'est ça. Oui.
Bah, en gros, vos pères ont mangé pimenté et c'est vous qui avez la diarrhée, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est vos pères qui. Parce qu'il y avait ce proverbe en Israël. Mais qui n'est pas faux, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment faux, maintenant j'en dépasse beaucoup, mais... les pères ont mangé des raisins verts, les dents des fils en ont été agacées. C'est-à-dire c'est les pères qui ont mal fait, et c'est les fils qui sont punis, en fait. Bah, vous mangez avec les dents.
Oui, d'accord,
mais... Bah, c'est les pères qui ont mangé du mauvais raisin, et c'est les dents des fils qui ont eu mal aux dents. L'image du piment est plus parlante.
Ça n'a pas mal aux dents, le piment, mais ça a mal aux dents. Oui, comme
oui. Les glaces. Voilà. Les pères ont mangé des glaces trop froides et les dents des fils. C'est pas faux parce qu'il y a une solidarité quand même entre les générations. Donc ce proverbe n'est pas totalement faux. Mais. Les Hébreux en abusaient tellement qu'à un moment, Dieu, par la voix d'Ézéchiel, dit « Faut arrêter avec ce proverbe parce qu'il y a quand même une responsabilité personnelle de chacun et donc faudrait pas déresponsabiliser tout le monde en disant « Bah oui, mais finalement, ça c'est nos pères, etc. » On n'y peut rien. Non. Donc Dieu rappelle « Celui qui est juste et il sera... » il ira au ciel, et celui qui est pécheur, s'il persévère jusqu'au bout dans son péché, il sera châtié. Quoi. Donc, voilà, il ne faut pas trop pousser le proverbe. Mais ce proverbe, il est présent à d'autres moments dans la Bible, et il a aussi sa part de vérité, parce que si ma mère picole pendant la grossesse, je fais ma forme. Et si nous transmettons à nos descendants une France où la foi n'existe plus, forcément, ça a quand même des répercussions d'une génération à l'autre. Donc, on n'est pas chacun dans une bulle, donc il y a une forme de solidarité dans le péché comme une forme de solidarité dans le salut, puisqu'on est tous solidaires du Christ pour être sauvés. Mais il ne faudrait pas que cette solidarité conduise à croire qu'on est totalement déresponsabilisé. On va montrer quand même. C'est pas tout ça, mais...